Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, soyez les bienvenus sur Canal Académie. C'est une plante qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette herbe se cultive facilement. Elle permet de fabriquer du papier, des cordages ou des vêtements. Les hommes la fument aussi pour connaître l'extase. Vous l'avez peut-être reconnu. Il s'agit du cannabis. Sa consommation a explosé en Occident au XXe siècle. C'est aujourd'hui la drogue la plus répandue en France. Elle suscite bien des déboires et des débats, notamment autour de sa légalisation. Nous allons en parler avec le neuropharmacologue Joël Bockart. Joël Bockart est membre de l'Académie des sciences et professeur émérite à l'Université de Montpellier. Il vient de sortir un livre sur ce sujet, « Le cannabis, quelle histoire ?» avec de nombreuses illustrations et une approche très pédagogique. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, les archéologues ont mis au jour des traces de culture de cannabis depuis le néolithique pour des usages variés. Et il semble que ce qui fait le succès de cette plante, c'est son adaptabilité. Finalement, on a l'impression qu'elle peut pousser très facilement sur des terrains et des latitudes très différentes.
Tout à fait exact. Donc, le cannabis, première connue, c'est le cannabis sativa, qui est en fait d'origine Asie centrale, donc Tibet, nord de la Chine, etc. Et en fait, elle s'est répandue parce qu'elle pousse très facilement, quelles que soient les altitudes, quelles que soient les longitudes, etc. Donc c'est une plante peu demandeuse, d'ailleurs en engrais, une plante écologique d'ailleurs qui résiste beaucoup aux insectes, qui résiste beaucoup aux maladies. Donc c'est une plante, très, très robuste. Voilà.
Et même dans sa façon de se reproduire, elle peut s'adapter et utiliser des stratégies différentes.
Tout à fait. On peut avoir des plantes mâles et des plantes femelles, ou on peut avoir des plantes qui contiennent à la fois les fleurs femelles et les fleurs mâles.
Alors dans cette plante, quelles sont les parties qui vont contenir les substances psychotropes ?
Alors les parties qui contiennent les substances psychotropes sont surtout les fleurs. Finalement, les feuilles aussi, peu les racines et peu les graines. Donc c'est surtout les fleurs de cannabis, et surtout les fleurs femelles d'ailleurs, plus que les fleurs mâles. Et d'ailleurs, dans les cultures où on veut avoir du cannabis un peu dosé, on coupe les fleurs mâles pour que les fleurs femelles ne soient pas fécondées et donc continuent à produire la substance psychotrope le plus longtemps possible.
En vous lisant, nous découvrons que derrière le mot cannabis se cachent des réalités très différentes, différentes plantes qui ne se ressemblent pas toutes, qui n'ont pas toutes les mêmes propriétés, peut-être la même teneur dans ces substances psychotropes. Et c'est un point très important, notamment pour bien l'étudier dans les laboratoires.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a deux grandes espèces. Enfin, et même, on n'est pas sûr que ce soit deux espèces différentes, le cannabis sativa et le cannabis indica. En fait, c'est peut-être même la même espèce. Donc, les études génomiques sont en train d'être reprises pour savoir si c'est la même espèce. Et puis, à partir d'une espèce, on peut faire beaucoup de variétés, comme pour toutes les plantes. Et on est arrivé à sélectionner des variétés ayant très, très peu de substances psychoactives, qu'on appelle le THC ou tétrahydrocannabinol, qui est la substance psychotrope. Donc on arrive à avoir des plantes avec pratiquement pas de THC, donc pas du tout psychotrope, 0,2%, qui est rien du tout. C'est la seule qui est autorisée d'ailleurs en Europe pour le développement de la culture, qu'on appelle le chanvre, finalement, qui va faire des tissus, des cordes, tout un tas de produits très intéressants, des isolants, etc. Donc ça, on va sélectionner cette plante-là. Et au contraire, bien entendu, des gens vont sélectionner des variétés avec beaucoup de THC. et de plus en plus de THC, ce qui pose d'ailleurs un problème, qui est un des problèmes majeurs, hein, avec des quantités de THC qui peuvent aller vers plus de 20%, 25%, et qui sont, cette fois-ci, très addictives et très dangereuses, quoi, enfin, sur le plan, en tout cas, de la santé.
Depuis quand cette concentration augmente-t-elle ?
Oh, ben depuis une quinzaine d'années, à peu près. Une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. C'est assez récent, oui, oui. Ah, ben, vous savez, tout... les gens qui, effectivement, font commerce du cannabis, bien sûr, essayent d'accrocher, comme on dit, en pharmacologie, accrocher les gens avec des substances de plus en plus fortes. Hein, et ça, c'est vraiment un problème de santé publique très important. Parce qu'on parle toujours de cannabis récréatif, mais enfin, il y a cannabis récréatif, si on peut dire, et cannabis récréatif. Donc, il y a du cannabis récréatif il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, hein, dans les années 68, hein, avec, où ça s'est vraiment beaucoup développé, l'usage de cannabis, avec des taux de 10, 12, 13%, et du cannabis actuel, où on peut atteindre, je vous dis, 25% ou plus. Donc ça, ce n'est pas du tout la même chose, si vous voulez dire, c'est toujours pareil, hein. C'est comme boire un verre de vin versus un whisky. Donc, vous pouvez boire deux verres de vin, ça va encore, mais si vous buvez deux whisky ou trois whisky, ça ne va plus, quoi. Donc voilà, donc il y a toute une gamme. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et souvent, dans les débats, on ne met pas assez en avance.
En fait, cette histoire de variété est quand même très importante et vous soulignez que dans certains laboratoires américains, les experts n'étudient pas nécessairement la plante qui est consommée par les usagers. C'est
tout à fait. Alors déjà, il faut souligner que la recherche scientifique sur le cannabis n'est pas très ancienne parce que pendant très longtemps... On en parlera peut-être, mais il y avait notamment aux États-Unis un grand lobby, bien sûr, anti-cannabis avec le Marijuana Tax Act du gouvernement américain qui a complètement interdit la recherche sur le cannabis. Et ce n'est pas un hasard si, finalement, les principes actifs du cannabis, le THC, mais aussi le CBD, dont on parlera peut-être, c'est un problème actuel, ont été isolés, finalement, en Israël. Par Mélenchon, qui, bien sûr, lui, s'est mis dans les années 50-60 à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cette plante, pourquoi elle était, bien sûr, une drogue. Et il allait chercher son cannabis à la police israélienne. Alors que, bon, après, bien sûr, depuis les années 70, par là, donc la recherche aux États-Unis a redémarré. Mais là aussi, effectivement, ils ne peuvent utiliser dans les laboratoires qu'une variété de cannabis qui est donnée par une université et qui n'est pas nécessairement la même que celle qu'on trouve dans la rue.
Donc, la variété officielle.
Voilà, la variété officielle. Et c'est vrai que c'est aussi difficile parce que si on veut étudier à fond et scientifiquement toutes les variétés, c'est énorme, quoi. Bon. Ce problème de qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on vend dans la rue, qu'est-ce qu'on va vendre dans les boutiques, si c'est légal comme au Canada... Tout ça est un problème très important.
Alors, avant de revenir à la consommation sous forme de drogue, nous allons peut-être creuser l'aspect agricole et l'aspect aussi industriel du chanvre. Oui. C'est un usage très ancien. On a pu en faire du papier, par exemple, des voiles et des cordages. Et il fallait utiliser cette fibre du chanvre et avoir cette opération du rouissage qui a marqué nos paysages pendant des siècles. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Oui, ben écoutez, effectivement, bon, d'abord, il faut rappeler que le chanvre est utilisé depuis des millénaires. Et notamment, c'est grâce au chanvre, notamment, que bien, les Chinois ont inventé le papier 200 ans avant Jésus-Christ. Et que le papier n'est arrivé dans les pays arabes que dans l'an 750, à peu près, au cours d'une bataille. Bon, il y a eu donc des prisonniers chinois qui ont révélé la recette, si j'ose dire. Et c'est arrivé en Italie, puis en France, que dans les années 1200. Donc c'est déjà intéressant de rappeler ça. Et puis après, bon, le cannabis s'est bien développé, comme vous l'avez dit, pour le papier, mais aussi pour les vêtements, les cordes. Il n'y aurait pas eu de cordes. Donc, il n'y aura pas une navigation à voile sans chanvre, dans le fond. Donc, tout le commerce est dû, bien sûr, à ces cordages, à ces élingues, etc., formés de chanvre, parce que c'est très résistant, c'est, bon, c'est facile à faire, etc. Il faut visiter la corderie royale donc, à Rochefort pour bien
dont
voir.
Dont vous montrez une photo.
Oui, et ça, on vous explique comment on fait des cordes. Bon, et je ne me rappelle plus trop la question de départ.
Le rouissage.
Ah oui, le rouissage, oui. Donc, en fait, il faut prendre le chanvre, il faut le macérer dans l'eau pendant quelques jours. Et en fait, il y avait une espèce de mare à rouissage dans toutes les fermes en France. D'ailleurs, la France était le premier producteur de chanvre hein, jusqu'au 19e siècle. C'était un très, très grand producteur de chanvre. Donc, on met ce chanvre dans des... On le fait macérer pour que tout ça se dégrade un peu, les fibres se défassent, etc., de la tige. Voilà. Et après, on le fait sécher et après, on le broie. Et donc, Georges Sand raconte d'ailleurs dans Mare au Diable très, très bien ces opérations-là. Et donc, ça fait effectivement... Il y en avait partout en France. On avait, je crois, au 19e siècle, 176 000 hectares de chanvre cultivés. On est descendu à quelques milliers et on est en train de remonter.
C'est donc une activité économique très importante. Et au moment de la révolution industrielle, se dessinent de nouvelles applications. Lesquelles ?
Ah ben, il y a eu d'autres applications, notamment, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire.
Par rapport au plastique.
Oui, on peut faire du plastique de chanvre, hein, et on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du biodiesel, donc on peut faire un carburant de chanvre. Il y avait Henry Ford, dans les années 20, qui a fabriqué une voiture qui était pratiquement complètement en chanvre, avec du plastique de chanvre. Elle roulait au biodiesel chanvre. Bon, et donc voilà, ça n'a pas eu ensuite de succès industriel, si on peut dire. Parce qu'à ce moment-là, de gros lobbies se sont mis en place, hein, aux États-Unis notamment, qui étaient... il y avait des lobbies entre le bureau des narcotiques, hein, dirigé par Allinger, qui était vraiment très, très, très violemment opposé aux chanvres récréatives, mais aussi aux chanvres industrielles, parce qu'il avait des amis dans des sociétés pétrolières, la société chimique Dupont de Nemours. Et là est arrivée la fibre nylon. C'est Dupont de Nemours qui a inventé la fibre nylon. Et donc, évidemment, la fibre nylon concurrençait le chanvre. Le coton est arrivé en même temps, donc aussi concurrençait le chanvre. Puis le papier à partir du bois. Et tout ça, c'était un conglomérat, si vous voulez, finalement, de lobby très, très fort, qui ont fait que le chanvre, c'était has-been, si on peut dire, et qu'il fallait l'éliminer officiellement pour des raisons de santé publique, enfin, en tout cas, pour lutter contre la toxicomanie, mais aussi officieusement pour des raisons économiques. Et donc, il y a eu cette fameuse Marijuana Tax Act en 1927.
Dans votre livre,
pour
si
27,
je vous crois.
Excusez-moi. Et voilà, qui a taxé tous ces produits au chanvre et qui a plus une publicité dans les journaux absolument incroyable, etc. Puis il y avait aussi le lobby de la presse, Hearst, qui était un grand mania de la presse, Citizen Kane. Donc tout ça a fait que le chanvre, petit à petit, est passé de mode et voilà. Et donc c'était le déclin.
Les effets de cette loi sont restés importants pendant des décennies.
Ah ben oui, jusqu'à très récemment, hein, où la culture de chanvre était pratiquement minimum. Et puis voilà, on a un regain, parce que c'est une plante très intéressante. Hein. En tout cas, même en France, mais même aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, président Trump a relancé cette culture de chanvre également aux États-Unis.
Ce regain, nous le percevons en France. Aujourd'hui, il y a 20 000 hectares de chanvre qui sont cultivés. Oui. Quels sont les intérêts, les applications recherchées pour cette plante ?
Je pense que c'est essentiellement des fibres de textile, hein, donc il y a des vêtements en chanvre. Il y a aussi des isolants, hein, c'est un très bon isolant. Une partie de la plante, d'ailleurs, à l'intérieur de la tige, qui est très, très bon isolant. Et puis, il y a aussi des produits alimentaires, des huiles riches en oméga-3. Donc, il y a toute une économie qui... on peut faire de la bière aussi. Vous savez que le cannabis, d'ailleurs, est très près du houblon, d'un point de vue botanique. Donc, on peut faire des tas de choses avec... On peut relancer éventuellement le cordage, encore que ce ne soit pas tellement, je pense, l'application la plus intéressante. Mais la fibre textile, je pense, est très intéressante aussi. Et puis, après, il y a bien sûr, on n'a pas parlé, ça ne sera pas le même le chanvre, ça sera du cannabis, cette fois-ci, le cannabis médical et récréatif, qui, bien sûr, est une, alors là, au niveau mondial, une entreprise très florissante en ce moment.
Et justement, nous y venons à cet usage autre du cannabis. Alors, la consommation dite récréative existe dans le monde entier. On en parle par exemple dans les Mille et Une Nuits et dans d'autres cultures. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples comme ça d'usage?
Alors bon, historiquement, oui, alors il faudrait parler de beaucoup de choses, mais bon, il y a cette secte dont on parle, Mille et Nuits, avec le vieil homme de la montagne, la secte des Achachins, qui a donné le mot assassin d'ailleurs, qui était une secte chiite du nord de la Perse, et qui perpétait des meurtres sous l'emprise du cannabis, dit-on. En tout cas, il y a toute une mythologie autour de ça. Ces gens-là existaient, bien sûr, et ces combattants qui allaient assassiner des gens s'appelaient des fédaïnes. Et c'est pour ça que les Palestiniens ont repris ce terme de fédaïne pour nommer leur combattants. Et bon, il y a toute une légende. Bon, certains aspects historiques sont un peu discutés. Et puis après, bien sûr, en France, il y a eu ce fameux club, cette fois-ci des Achichins, où on retrouvait Théophile Gautier, en fait, plein d'écrivains, Baudelaire, Balzac est passé, etc., qui se réunissaient pour expérimenter le cannabis, d'ailleurs sous forme de confiture. Et ils décrivent très très bien les faits.
De confiture.
Oui, de confiture, parce qu'on peut faire, on peut consommer le cannabis sous plein de formes. Bon, fumer, c'est ce qu'on connaît. On peut faire des gâteaux, on peut faire de la confiture, etc. Donc eux, ils avaient une confiture verte qui était très très dosée apparemment, parce que certains ont eu des hallucinations, ils décrivent très bien tout ça. Même Baudelaire n'a pas tellement aimé finalement. Il n'a pas été aimé. D'ailleurs, il n'aimait pas tellement, malgré qu'il ait écrit des artificiels, il n'aimait pas tellement les drogues. Il disait qu'on ne devient pas génial simplement en utilisant des drogues. Et il était même assez méchant avec les bouchers. Il disait qu'un boucher n'aura que des rêves de boucher. Donc en fait, c'est pas ça qui va faire le génie, même si on consomme une drogue. Mais finalement, c'est resté. Il y a pas mal d'écrits d'expériences sous hashish. Donc après, il y a eu.
Ce type d'expérience était encore marginal, et puis c'est répandu beaucoup plus largement.
Ça s'est répandu. Alors c'est très intéressant d'un point de vue culturel. Ça s'est répandu. Ça a recommencé. Alors un peu avant les années 50. D'abord les jazzmen de la Nouvelle-Orléans, Armstrong et autres, qui consommaient du hashish, parce que le hashish déforme un peu la sensibilité, le tempo. Donc, ils prenaient ça pour améliorer le tempo de leur musique. Alors, ils ont d'ailleurs fait des tas de morceaux de musique qu'on peut trouver, qui se réfèrent à la consommation de hashish. Et ensuite, ces jazzmen de la Nouvelle-Orléans ont été à Chicago, puis à New York. Et c'est à New York, dans les clubs de jazz, qu'est né tout un mouvement qu'on appelle la Beat Generation, qui est très connu avec Kerouac, notamment, qui est écrit sur la route. Alain Ginsberg aussi, qui venait souvent à Paris, d'ailleurs très très près d'ici. Il y avait un hôtel qui s'appelait le Beat Hotel, où tous ces gens-là sont venus passer un certain temps pour se libérer un peu de l'emprise. Ils trouvaient ici que la liberté était bien plus grande qu'aux États-Unis. Et puis ensuite, les Beat Generation a été remplacé par les Beatniks. Les beatniks, c'était déjà
encore autre chose.
C'était un peu autre chose. C'était un peu dégénéré d'ailleurs par rapport à la génération beat. Ils n'aimaient pas beaucoup. Et là, c'est les années 67-68. On arrive aux hippies, qui sont aussi un mouvement dérivé des beatniks. Eux, ils fumaient à la fois, bien sûr, beaucoup de cannabis, mais aussi du LSD et d'autres drogues. Et donc, ils ont quand même aussi donné toute cette génération de Peace and Love, Mayflower, etc., etc. Enfin, on peut en parler longtemps. Et c'est vraiment là que la consommation mondiale est exposée, parce que l'aura de ces gens-là a été vraiment popularisée mondialement. Les Beatles aussi fumaient un peu. Ils sont fait arrêter, d'ailleurs. Certains sont fait arrêter et emprisonnés quelques temps, d'ailleurs, au Japon. Donc voilà, donc il y a tout cette mouvement et c'est là que ça s'est vraiment développé énormément.
Alors la consommation se développe et en parallèle, les connaissances scientifiques sur le cannabis et ses effets se développent également dans la même période.
Oui, tout à fait. Oui. On a dit que c'est Meshulam en Israël qui a isolé les grands principes actifs du cannabis, hein, on a déjà parlé du THC qui est le composé psychotrope, mais il y a aussi le CBD, hein, qui est le cannabidiol, dont on peut acheter maintenant, hein, comme on veut, où on veut, des boutiques fleurissent de partout, qui lui n'est pas psychotrope, hein, qui a d'autres effets pharmacologiques dont on pourra parler. Et donc voilà, la recherche a commencé là, puis après on a trouvé, c'est très important aussi, on a trouvé que notre cerveau contenait des récepteurs qui vont reconnaître ces molécules, hein, donc le fameux récepteur CB1 du cerveau, et aussi des équivalents du THC dans notre cerveau, qu'on appelle les endocannabinoïdes. Donc en fait, on a un système dans notre propre cerveau qui contient à la fois un cannabis, disons, physiologique, si on peut dire, hein, qui n'a pas tout à fait la même formule, mais qui agit sur la même cible, le même récepteur que le cannabis qu'on fume ou qu'on prend pour des vertus récréatives. Donc ça, c'était une grande découverte quand même, hein. C'est un peu comme les opiacés, hein. Vous savez qu'on a les opiacés, quand on prend la morphine agit parce qu'on a des récepteurs à la morphine dans le cerveau et des substances, disons, des morphines endogènes, hein. Bon. Donc ça, c'était une grande découverte. Et puis après, bien sûr, et de plus en plus, on connaît les effets physiologiques du cannabis et ou délétères du cannabis, consommé, bien sûr, en grande quantité, sur le cerveau et sur les comportements et sur... voilà.
Justement, quelles sont ces incidences sur le cerveau ?
Ah bah, sur le cerveau, bah, le THC, on va commencer par le THC. Donc le THC agit sur le cerveau sur un type de récepteur qu'on appelle récepteur CB1, qui est... Bon. Et bon, ils ont des effets, alors bien sûr, tout dépend des concentrations de cannabis qu'on prend, mais ce THC a des effets qui peuvent être rapides. Alors, selon la dose, bien sûr, et selon les individus aussi, il peut être ou relaxant, ou on peut avoir des psychoses ou des psychoses délirantes sous cannabis. On peut même avoir des hallucinations, on l'a déjà dit tout à l'heure, sous cannabis. Donc, on a des effets rapides qui peuvent être très variables d'un individu à l'autre. Et puis, bien sûr, on a des effets moteurs, hein. On sait très bien que beaucoup d'accidents sont causés. Au Canada, d'ailleurs, c'est la première cause d'accident sous substance, c'est le cannabis. Puisque le cannabis va agir sur le cervelet, qui est une zone du cerveau qui est impliquée dans les effets moteurs. Donc ce n'est pas très, très bon. Ça, c'est des effets à court terme, tout ça, hein. On peut avoir aussi, à court terme, des crises d'anxiété. Enfin, donc ça peut être un peu variable d'un individu à l'autre. Mais par exemple, des effets psychoses délirantes, c'est quand même un consommateur sur 5 au début. Bon, après, effectivement, les gens s'adaptent un peu, puis adaptent leur consommation aux effets qu'ils ressentent. Si ce n'est pas très bon, bah, ils contrôlent. Donc tout ça, c'est des effets à court terme. À long terme, il y a d'autres effets, hein, donc les terres qui ne sont pas non plus très très bons. Il y a les effets sur la mémoire, hein, la mémoire, et sur la cognition, c'est-à-dire le raisonnement, etc., qui sont vraiment très très bons, et surtout sur les adolescents. Donc ça, c'est le gros problème.
Les adolescents,
parce qu'en fait, il y a un moment de l'adolescence qui est très critique pour la formation du cerveau, et il y a tout un remodelage du cerveau à l'adolescence, hein, qui est maintenant assez bien connu, et consommer du cannabis à cette période est assez dangereux pour la cognition et la mémoire, mais aussi ça peut précipiter des psychoses, des schizophrénies qui ne seraient pas nécessairement révélées s'il n'y avait pas eu cette consommation jeune, bien sûr longue, pas une fois bien sûr, mais longue et jeune. Et ça, maintenant, c'est démontré dans beaucoup d'études que le taux d'incidence, enfin le taux de précipitation de la schizophrénie est augmenté par le cannabis. Les effets à long terme sont aussi, par exemple, chez la femme enceinte, hein, chez le fœtus, ça affecte le développement cérébral du fœtus. Puis l'addiction, bien sûr, hein, l'addiction restreint, comme toujours pour les addictions, bon, de cas significatifs. En France, on pense qu'il y a 600, 900 000 jeunes qui ont vraiment des problèmes graves d'addiction. Et aussi, bien sûr, après, les conséquences de manque de motivation, donc à l'école, mais aussi dans le travail, etc. Donc il y a des effets à court terme et des effets à long terme qui sont pas très sympathiques. Tout ça étant, bien sûr, fonction de la quantité qu'on prend, et comme on l'a dit tout à l'heure, du taux de THC dans la substance.
Vous nous avez parlé de ce THC. Est-ce que pour l'autre composant, le CBD, est-ce que c'est celui-là qui est intéressant pour les usages thérapeutiques ?
Ben, je dirais que les deux sont peut-être, peuvent être intéressants pour les usages thérapeutiques. Alors, le CBD, oui, parce que le CBD n'est pas du tout psychotrope. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas vu d'effet délétère du CBD. D'ailleurs, il est en vente libre en Europe sans problème, hein, en France aussi. Hein, et donc, il a quelques effets thérapeutiques, hein, on peut y revenir si vous voulez. Mais le THC peut en avoir aussi, et surtout en association avec le CBD. Simplement, il faut, quand ça sera thérapeutique, ça sera sous contrôle, à des doses bien, bien contrôlées, etc. Comme beaucoup de substances, d'ailleurs, hein, qui sont bonnes à certaines doses. Morphine peut être bonne pour la douleur à certaines doses et très délétère si on le prend d'une manière récréative, et beaucoup de substances comme ça. Voilà. Donc, les deux sont intéressantes sur le plan thérapeutique. Le CBD pose pas de problème. Hein. Le CBD est utile en thérapie pour plusieurs choses, notamment les épilepsies sévères, résistantes à toutes les médications connues. Donc ça, c'est intéressant, et c'est, d'ailleurs, c'est utilisé. Hein. Ensuite, le CBD est intéressant pour l'anxiété aussi, et un peu les douleurs neuropathiques. Donc ça, c'est trois indications qui sont assez claires maintenant, on peut y avoir d'autres. Alors que le THC plus CBD sont plus intéressants dans un certain nombre d'autres traitements. Les contractions douloureuses, qu'on appelle les contractions spastiques dans la sclérose en plaques. Donc ça, c'est une grande application, la sclérose en plaques, les gens qui souffrent de contractions. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi, bon, ça peut être intéressant pour les soins palliatifs, pour l'anxiété, pour l'appétit aussi. Ça augmente l'appétit pour les gens qui ont un cancer ou qui n'arrivent plus à manger, etc. Donc il y a un certain nombre d'actions, bien sûr, thérapeutiques, bien contrôlées, etc., qu'il faut bien connaître. Et puis voilà, après, il y a les effets délétères si on en prend trop et de manière, disons, pas contrôlée.
Ces actions thérapeutiques restent-elles expérimentales aujourd'hui ou commencent-elles à
se diffuser ? Ben non, oui, c'est un tout petit peu notre problème en France, hein, comme souvent. Quand on regarde, la plupart des pays du monde ont légalisé le cannabis thérapeutique. Hein. Donc il y a des médicaments d'ailleurs, hein, qui peuvent se trouver en pharmacie, hein, le fameux Sativex, qui est même autorisé en France. Hein. Mais on ne le trouve pas, pour une raison un peu mystérieuse, de prix. Ça serait trop cher, donc on ne peut pas le trouver. Bon. Mais quand on regarde, par exemple en Europe, rien qu'en Europe, 22 pays sur 27 ont légalisé le cannabis thérapeutique. Puis comme l'Allemagne notamment. Et nous, non. Alors bien sûr, ce gouvernement, etc., veulent légaliser le cannabis thérapeutique. Mais là aussi, là, on a lancé cette année une expérimentation sur 3000 patients qui me semble assez inutile. Je veux dire, si 22 pays sur 27 l'ont légalisé, le cannabis thérapeutique, c'est qu'ils ont fait les essais. Je veux dire, ils l'ont pas fait au doigt mouillé. Bon, enfin, il faut bien qu'on refasse, nous, pour être sûr que c'est bien fait. Mais les autres, probablement, travaillent un peu moins bien que nous. Et donc, on est en train de faire ces essais. Voilà.
Nous l'avons compris, vous êtes pour la légalisation à usage thérapeutique. Qu'est-ce qu'il en est de la légalisation à usage récréatif ?
Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, moi, dans le livre, d'ailleurs, je ne donne pas mon opinion, je donne les arguments pour et contre. Hein. Bon, alors, on peut essayer de lister les arguments pour. Ben, les arguments pour sont d'abord, effectivement, et c'est pour ça que le Canada a légalisé, pour essayer de réduire le trafic et tous les problèmes, bien sûr, sociétaux liés au trafic. Bon. Donc, essayer de réduire le trafic. On sait très bien que c'est difficile de supprimer le trafic, surtout rapidement, en tout cas essayer de le réduire. Bon, si ce n'est pas au Canada, hein, ils ont réduit les chiffres varient, mais entre 30 et 50% réduit le trafic illégal. Donc réduire ça, bon, donner des produits beaucoup plus sûrs et bien dosés, enfin, ne pas laisser les gens prendre n'importe quoi, si j'ose dire, de manière illégale, donc contrôler quand même ce que les gens prennent. Avec des produits plus sûrs. L'autre gros problème positif pour ça, c'est qu'à partir du moment où c'est légal, on peut faire de l'information et de la pédagogie. Alors quand c'est illégal, c'est difficile de faire de l'information et de la pédagogie. Un gouvernement ne peut pas dire c'est pas bien de voler, mais si vous volez, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de problème. Donc c'est un peu difficile. Donc ça, et je pense que finalement, l'information, la pédagogie, etc., c'est, pour les drogues, c'est pratiquement le seul moyen d'essayer de contrôler la situation. parce que, bon, on le sait très bien, et ça, c'est clair pour tout le monde, même si les gouvernements veulent de temps en temps se cacher la face, la répression ne marche pas contre les drogues, hein. On le voit tous les jours, je veux dire, ça ne marche pas. Bon. On estime qu'on récupère entre 5 et 10% du cannabis qui circule. Bon, c'était rien, avec des moyens énormes, parce que ça coûte très très cher de faire toute cette répression. Donc ça, c'est pour. Contre la légalisation du cannabis, il y a aussi des arguments. Contre, bien, c'est que, bon, on a peur que ça se répande, ce qui n'est pas vrai dans les pays qui ont légalisé. Au Canada, ils estiment à quelques pourcents simplement l'augmentation de la consommation, donc ce n'est pas énorme. Contre, c'est le fait de dire, ben voilà, c'est une drogue, surtout si on en prend trop. C'est une drogue, mais on va la légaliser. Toujours un peu difficile, hein, bon, pour un gouvernement, je comprends. Surtout en France, hein, comme je dis dans mon livre, il n'y a pas eu un ministre ou un chef d'État qui a légalisé l'alcool ou le tabac, qui sont des drogues aussi. Il a pas mis sa signature, j'autorise la vente d'alcool. Bon, il n'a jamais eu à faire ça. Celui qui fait ça, j'autorise le cannabis, au premier accident de voiture ou un drame qui se passe, il est traduit en justice, c'est évident. Et je comprends. Puis, ben, d'un point de vue moral, etc., c'est très difficile de dire, c'est une drogue, mais on va quand même la légaliser, on va vous en vendre. C'est vrai que c'est difficile. Bon. Donc, il y a des arguments pour, des arguments contre. Si vous pensez que, effectivement, ça peut réduire un peu le trafic et les drames liés au trafic, ça permet de faire l'information, vous êtes pour. Si vous pensez que, de toute façon, c'est une drogue, il ne faut jamais en prendre, etc., et donc, moralement, on ne peut pas le vendre, légalement, vous êtes contre. Voilà. Alors, après, chacun fait son opinion. Hein. Et d'ailleurs, dans pratiquement tous les pays où ça a été légalisé après un référendum. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement qui peut prendre cette décision sans qu'il y ait un référendum, c'est-à-dire un vote populaire. Donc c'est une question compliquée. Comme toutes les drogues sont compliquées.
Eh bien, un grand merci, Joël Bocart. Vous nous laissez donc très libres de nous forger notre propre opinion après nous avoir éclairé sur le cannabis dans ses différents usages. Je rappelle donc le titre de votre livre, qui s'appelle « Le cannabis, quelle histoire ?». C'est aux éditions de l'Université de Grenoble-Alpes. Un grand merci de votre venue et à bientôt.
Merci. Thank you.